Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07 de retour dans les grandes gueules du sport au cœur d'une émission exceptionnelle ce matin avec la finale de la Coupe de France PSG Reims. On en a parlé à partir de 9h. La finale de la Champions Cup UBB Northampton. On en parle à 11h et dans quelques instants, nous allons évoquer Roland Garros. Ça débute demain, le grand premier moment de cette édition 2025, c'est l'hommage à Raphaël Nadal. Vous manque-t-il ces bras de fer des GG? C'est un 2 contre 2 avec Christophe Cessieux, Cédric Emmons, Fred Weiss et Julien Beneteau. 10h30, Caroline Garcia s'arrête dans les prochaines semaines. À la surprise générale, la Française va participer à son dernier Roland-Garros. Elle l'a annoncé hier. Va-t-elle laisser une trace dans l'histoire du tennis français? On se posera la question, ce sera la punchline. Et puis 10h45, mes GG, vous prenez les commandes de cette émission. Vous nous proposez un débat soumis au vote sur le compte X des grandes gueules du sport. Et évidemment, le grand gagnant viendra exposer sa problématique à 10h45. Christophe, quelle est ta proposition?
Moi, je vais vous parler d'un mec à qui on a envie de mettre des baffes. Et on aura sans doute encore envie de lui mettre plus de baffes ce soir après la finale du Champions Cup. Ce gars, c'est une vraie tatabaffe anglaise. Tu sais, le sale gosse que t'as envie de lui tirer les cheveux, t'as envie de le martyriser.
Envie d'être violence, maintenant.
Le problème, c'est qu'il est hyper fort. Et c'est un rugbyman incroyable qui s'appelle Pollock. Et je vais vous parler de ce roast beef qui va nous faire mal pendant quelques années.
Quoi. Ok, joueur de Northampton, qui est un génie absolu, qui a connu une ascension incroyable et qui peut parfois être un peu agaçant. Ah, c'est ta proposition, mon cher Christophe.
Je pense que Cédric
aura
envie de le martyriser un peu, celui-là.
C'est possible. Bah, Cédric, justement, c'est quoi ta proposition?
Alors, moi, j'ai envie de m'arrêter ce matin sur la fin de carrière des sportifs, entre blessures et dépression, un enjeu ignoré. Le sport de haut niveau fait rêver, mais que se passe-t-il quand les projecteurs s'éteignent derrière les médailles, les trophées? De nombreux athlètes terminent leur carrière brisés, physiquement et mentalement. Des exemples qui interpellent Éric Dimico, qui disait sur cette antenne, je suis à la limite du handicap moteur, Bruno Rodriguez, amputé d'une jambe. Il est temps de jeter un pavé dans la mare. Alors pour cela, je vous demande encore une fois de ne pas voter contre, mais pour moi. Parce que les héros du sport méritent bien mieux qu'un oubli douloureux.
Ok, c'est la proposition de Cédric Evans, évidemment tout en sagesse, mais c'est extrêmement intéressant ce débat. On pourra en faire 2 heures. Tu nous le proposes pour 10h45. Parfait. Frédéric Weiss, pas de basket. Hein.
Non, pas de basket. Alors je vais parler de basket, de NBA. Pour la 7e fois de suite, un MVP, donc un meilleur joueur de la saison régulière en NBA, a été élu. Et c'est un non-américain. Non, états-unien, exactement. C'est parce que lui est américain, il est canadien. Et donc, je me viens à poser la question, et j'aimerais poser la question à mes collègues, savoir si le monde n'est pas en train de prendre le lead sur les Américains. Est-ce que le monde est plus fort que les Américains en termes de formation? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis cette année de suite? Ça n'était jamais arrivé, évidemment. C'est incroyable. Et donc, voilà ma question. Est-ce qu'on est meilleur que les Américains?
On ne parle pas de géopolitique, hein, on parle que de NBA.
On ne parle que de NBA.
Ok, très bien. C'est la proposition de Fred Weiss. Allez voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Julien Beneteau.
Roland Garros va commencer demain, le tableau final. Et il y a un des plus grands joueurs du tennis français qui va tirer sa révérence, c'est Richard Gasquet. C'est le dernier tournoi de sa carrière, cette carrière de 23 ans. Avec plus de 1000 matchs au compteur. Et j'aimerais, dans cette contre-attaque, en fait, lui rendre un hommage qu'il mérite parce que c'est vraiment un grand joueur avec qui j'ai une histoire particulière qui va nous quitter et qui va manquer beaucoup au tennis français.
Il y a un hommage qui est prévu par
on
sent de l'émotion.
Ce sera pas demain parce qu'il y a l'hommage de Nadal. Donc, ouais. Lui, il doit jouer lundi ou mardi.
Il a pris 6 heures en plus normalement s'il passe
au deuxième tour. Ouais. Donc je sais pas si l'hommage sera fait tout de suite après sa défaite ou si par exemple les organisateurs vont dire tiens telle date une fois qu'il aura fini son tournoi. Il y aura un petit truc sur le
L'hommage à Richard Gasquet proposé par Julien Beneteau. Si vous voulez entendre ça, évidemment, vous votez pour lui sur le compte X des grandes gueules du sport. Merci beaucoup. Les GG, quatre débats extrêmement intéressants. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Jules Barbet d'Aurivilly qui a dit un jour, le plus grand hommage que l'on puisse faire d'un diamant, c'est de l'appeler un solitaire.
RMC, le bras de fer GG.
C'est une nouvelle participation ici à Roland-Garros, la 19e pour lui. 14 fois vainqueur ici, 22 titres du Grand Chelem. Il est espagnol, Rafael Nadal.
Ahí la tienes, Rafa Nadal al suelo. Hier Roland Garros.
2005, 2006, 2007, 2008, 2010.
C'est un ace. Oh le mec, il est pas longé, il est à genoux. Il est à genoux, Rafa Nadal. Il l'a fait. Incroyable démonstration de puissance, de tout. C'est le plus grand terrien de tous les temps.
2011, 2012, 2013, 2014, 2017.
Amoureux, malheureux, ça ne fait rien.
Incroyable, et ça termine sur ce petit coup de patte. Et Rafa Nadal réussit pleinement et parfaitement de retour à la compétition.
Il monte. Elle est sur la ligne et il finit là-dessus. Immense champion, il en jette sa raquette, il ne prend pas ses yeux.
Chouchou, reviens tout de suite, je vais te tuer.
Reviens, on va vivre.
Pour la première fois de sa vie, Raphaël Nadal va se rendre porte d'Auteuil dans la peau d'un retraité. Sa première victoire, rendez-vous compte, c'était en 2005. Il y a pile 20 ans, la dernière remonte à 2022. L'Espagnol culmine à 14 Roland-Garros. Un record absolu et certainement imbattable. Un magnifique hommage lui sera rendu demain sur le court Philippe Châtrier, excepté en 2023. C'est la première fois depuis deux décennies que le champion espagnol ne sera pas de la partie à Roland-Garros, à l'heure où un nouveau duel est en train de naître, le duel Sinner-Alcaraz. Raphaël Nadal, vous manque-t-il ? C'est notre bras de fer aujourd'hui. Dans le coin gauche, la team Oui, représentée par Christophe Cessieux et Cédric Emmanse. Dans le coin droit, vous l'aurez compris, la team Non, Fred Weiss et Julien Beneteau. C'est extrêmement serré, on vous a posé cette question sur le compte X des grandes gueules du sport, c'est du 53-47 pour le moment. 53% non, 47% oui. Vous allez devoir commencer, Cédric et Christophe. Avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial à Roland-Garros, c'est Anthony Reich. Salut Anthony.
Salut Jean-Christophe, salut les GG.
Ah, je croyais que c'était Eric, salut, je suis content.
Eh non, c'est Anthony.
Ah, j'ai eu peur, avant de quitter le
deuxième. On parle de spécialiste tennis quand même. Alors Anthony, l'ombre de Raphaël Nadal va planer sur cette édition 2025.
14 à Roland-Garros, en 2005, 2006.
Vous entendrez demain soir pour la dernière fois cette annonce célèbre du speaker de Roland-Garros, Marc Maurice.
14, 2017, 2018.
L'Espagnol sera sur le court, mais pas en tant que joueur. Retraité depuis novembre dernier, son ombre plane porte d'Auteuil.
Ça fait 14 fois qu'il l'a remporté, ça fait un grand vide hein, quand même, on va pas se mentir.
Je suis un très grand supporter et oui, ça va faire bizarre cette année de plus avoir Raphaël Nadal.
Le monde du tennis veut assister à cette cérémonie prévue après la session de journée sur le court Philippe Châtrier, a commencé par la quadruple vainqueur, Iga Świątek.
Je veux vraiment y assister. Pas la peine de vous préciser que je risque de pleurer. Il faut célébrer Rafa, ce qu'il a représenté pour notre sport et le modèle qu'il a été.
Raphaël Nadal devrait s'exprimer demain soir en français sur le court. Amélie Mauresmo, directrice du tournoi.
On doit s'attendre à quelque chose qui doit ressembler à Rafa et c'est ce qu'il nous a demandé d'ailleurs. Quelque chose de simple, authentique, qui va rester dans ses valeurs à lui en relation avec l'humain et les gens qu'il a côtoyé pendant 20 ans ici à Roland-Garros.
Et il se pourrait bien que Roger Federer, son grand ami, soit présent pour lui rendre hommage une dernière fois.
On en reparlera demain, hein, toutes les indiscrétions de cet hommage rendu à Raphaël Nadal. Merci beaucoup Anthony Reich. On essaiera évidemment d'avoir quelques petites informations, même si c'est extrêmement protégé, c'est vraiment tenu secret. Ce sera sur rmcsport.fr. Alors Raphaël Nadal, vous manque-t-il ? C'est notre bras de fer ce matin. J'ai deux oui, j'ai deux non, et pour l'instant, le camp du oui, Cédric Emmanse, Christophe Cessieux, vous êtes derrière. 47% pour vous. Christophe, pourquoi oui ? Pourquoi
alors,
il manque ?
Déjà, en tant que dépositaire du C'était mieux avant, j'aurais pas pu répondre autre
oui,
chose que
vrai.
Ça. Hein. Voilà, Nadal me manque parce que moi, je suis nostalgique et que c'est un peu mon
credo.
Mon credo,
voilà. Là, il y a bien de paroles qui lui manquent.
Mais c'est vrai qu'il y a mais un peu moins, je l'ai moins connu celui-là parce qu'il venait de prendre sa retraite quand je suis né. Mais c'est vrai que la force de l'habitude, celle du retour des beaux jours, cette couleur ocre qui envahit nos écrans à la fin du mois de mai, la sempiternelle présentation de Marc Maury qu'on vient d'entendre, annonçant l'entrée de Rafa, tout ça est en train de partir. Et comme dans toute bonne série, on n'avait pas envie que ça s'arrête et on avait hâte de regarder un nouvel épisode de la série Nadal à Paris. Voilà, tous les ans, c'était la même chose, on était habitués. On se demandait si Djokovic allait pouvoir le battre, quel Français il allait martyriser, quelle blessure il allait réussir à éviter pour se retrouver en finale et pour gagner. Et bah, toutes ces petites habitudes ont disparu. Et moi, j'aime bien avoir des repères. Avec la retraite de Nadal, c'est un peu de notre jeunesse envolée qui, depuis belle lurette, qui s'en va également. On a vieilli avec Rafa. On l'a vu débarquer avec son mauvais débardeur et son mauvais pantacourt. Vous vous rappelez quand il avait avait 17 ans sur les cours, avec ses cheveux longs, une tête d'Indien. On l'a vu devenir un homme, puis un père de famille. Et on était habitué à voir ce garçon. Et voilà, bah, cette habitude, elle disparaît. Alors, c'est pas que j'aime pas Alcaraz ou Sinner, mais franchement, il me provoque pas du tout les mêmes émotions. Peut-être que dans 20 ans, mais enfin, dans 20 ans, je serai peut-être ailleurs.
Non, tu seras toujours là.
Sur un plateau. Et puis Nadal,
on était habitué, il faisait partie de la famille, quoi. Voilà, il était.
Et puis Nadal, il avait une relation particulière avec le public français, un style de jeu inimitable, ses lifts, ce mental d'acier, cette volonté.
Cette ultra-domination où personne ne pouvait régner avec lui, c'était génial, vraiment. C'était un très très bon moment, ça.
Ah, il y a des matchs fous, quand même. Il y a des matchs marathon face à.
Dans l'absolu, quand tu gagnes 14
points. Paul-Henri Mathieu, il y a eu des matchs fous. Il a été mis dans les cordes. Il est toujours revenu. Son dernier titre, je crois, c'est à 36 ans, c'est ça, non?
Je sais pas. Et ça s'est mal passé l'année. 37 ans? En 2009, quand il perd son premier match, à Roland-Garros contre Söderling. Le public prend fête et cause pour Söderling parce que, exprime un peu ce que vient de dire Fred, en a marre que Nadal gagne depuis 2005 à ce moment-là. Et à juste titre, Nadal et son clan n'ont pas compris l'attitude du public parisien. En plus, pour Söderling, c'est comme si, enfin bref, prendre fête et cause pour Söderling, c'est vraiment on avait affaire à un public de.
Mais c'est ça, Raphaël Nadal dans la difficulté.
Il va marquer l'histoire à jamais s'il gagne à chaque fois.
Mais c'est ça, Raphaël Nadal dans la difficulté. Ce moment-là, il a réussi à renverser, il est revenu. Certes, oui, je suis d'accord, la domination, ça peut énerver. Mais la domination, derrière, il faut regarder autre chose. C'est la longévité, c'est le sérieux, c'est un style de jeu.
C'est bien aussi. C'est un cousin qui te parle, il y a
des. Non, mais c'est surtout l'incertitude, c'est bien aussi. Raphaël Nadal, on a adoré, évidemment.
Il y a eu des matchs.
Qu'est-ce qu'on aime chez les sportifs? C'est la temporalité, c'est le fait qu'il dure pendant un certain temps.
Mais lui, quand on passe à 14 titres, il a duré.
Parce qu'on peut pas être éternel. Et personne n'est éternel dans le sport, même Raphaël Nadal. Oui, on s'en rappellera toujours parce que Raphaël Nadal aura marqué, et je suis d'accord avec JC, personne ne pourra battre ce record, à mon avis, de 14 victoires à Roland Garros. Mais il faut passer à autre chose.
Rappelle-toi l'année dernière, par exemple. L'année dernière, on savait qu'il allait pas gagner Roland Garros. Mais on se demandait s'il allait revenir, s'il
premier
allait
tour
être
face à Zverev.
Les premiers tours face à Zverev. Mais on savait très bien qu'il n'avait pas gagné. Mais c'était important aussi de le voir et d'affronter Zverev.
Julien Benetton aussi.
Je donne de l'eau à mon moulin parce que moi j'ai dit non. Alors que j'adore Raphaël Nadal et pour moi c'est un exemple pour les enfants de ce qu'il a, de comment il était pour les petits qui rêvent de devenir joueur de tennis, les valeurs qu'il a véhiculées, etc. Mais moi pourquoi je dis non? Parce que moi le Raphaël Nadal qui me manque, c'est celui qui est capable de jouer 5h15 contre Djokovic en demi-finale, de faire un des plus beaux matchs. C'est pas le Rafael Nadal de l'année dernière. Moi, le Michael Jordan qui me manque, c'est celui des Chicago Bulls, c'est pas celui des Washington Wizards à la fin de sa carrière. Donc, celui-là, maintenant, il est plus, il a fait son temps, c'est comme ça, c'est comme Federer, c'est comme.
Oui, mais il a pas fait le truc de trop, il nous manque pourquoi? Parce
non
qu'il,
après, il je part, comprends il part juste au bon dit, moment. Mais Nadal, avec ce qu'il a fait à Roland Garros, on a envie de le voir s'il est là.
Donc ça veut dire que là t'aurais envie que Djoko arrête aussi parce que c'est plus le même Djoko.
Attention Djoko, je l'ai jamais enterré, là il est en finale à Genève et Roland Garros, je sais pas ce qu'il va faire mais il se prépare pour Wimbledon, attention. Et puis moi j'ai pas le même rapport Nadal et Federer me fascinaient plus que Novak Djokovic. Mais c'est pour ça que pour l'instant, enfin je dis que Nadal manque pas. Oui, il y a tout le décorum. Au fur et à mesure des années où il gagnait, son entrée sur le court, le discours de Marc Maury a évolué. Ça faisait partie du truc. Le public attendait ça.
Eh oui, bien sûr. Voilà.
Donc, il va marquer à jamais. Il a marqué, il marquera
ça,
jamais.
Ça, c'est pas la question. On est tous d'accord là-dessus. Voilà. Il a marqué.
L'histoire,
Michael Jordan est un très très bon exemple.
Ben oui.
Moi, Michael Jordan, pour moi, c'est le meilleur joueur.
Non, mais on parle de Raphaël Nadal au sommet. Raphaël Nadal, c'est ce Raphaël Nadal-là qui va nous manquer.
Non, il va pas nous manquer. On va y penser avec nostalgie.
Exactement.
Un bel hommage demain. C'est important d'avoir un bel hommage.
Manquer, ça veut pas dire y penser sans nostalgie ou pas. Oui.
Et manquer, c'est qu'on y pense par définition.
Non, mais
vous manquez, c'est aussi par rapport aux autres joueurs qui sont actuellement sur le circuit.
J'aurais tellement, moi, adoré voir Nadal au sommet de son art affronter Alcaraz aujourd'hui. Un duel entre les deux Espagnols. Oh. Savoir s'il serait sorti vainqueur de ça. Le voir affronter Sinner. Donc c'est pour ça que moi, il me manque. Mais tu as raison, c'est le grand Nadal qui nous manque, celui qui était capable de battre tout le monde.
Avec Federer et Djokovic. Et en termes d'intensité, de niveau de jeu, là où ils ont mis le jeu. il a pas besoin de jouer Alcaraz ou Sinner. Hein. Ce qu'ils ont fait, ils ont, c'est les trois meilleurs joueurs de l'histoire qu'on
alors, joue
en même
temps. Alors, c'est cette époque-là, tu vois, peut-être, qui va vouloir nous manquer. Parce que, est-ce qu'il y a des grosses confrontations? Est-ce que c'est ça?
Larry Bird, Magic Johnson, Jordan, voilà, en même temps, la même époque. Aujourd'hui, oui, il y a LeBron, ils allaient jouer avec, mais, c'est en dessous.
Déjà, il faut jamais comparer les époques et on le fait très souvent. Ouais. Quand on parle du GOAT, du meilleur joueur all-time, par exemple, au basket, il y a plein de clans qui s'opposent. On peut pas opposer des époques. À chaque époque, il y a ces stars. Là, en ce moment, c'est Alcaraz, c'est Sinner. OK. On est content, on n'est pas content. C'est pas important. C'est la réalité qu'on a. Et on va avoir des bons matchs. On sait que c'est quand même deux très bons joueurs de tennis. Et peut-être que dans 10 ans, on dira, il nous manque Alcaraz ou il nous manque Sinner.
Ouais, mais c'est l'idée du tennis. Tu vois, c'est
oui, mais c'est de la nostalgie, ça. C'est pas du manque, c'est de la nostalgie. Ah, ça, c'est très triste.
Ah, moi, McEnroe me manque encore plus que Nadal. Un McEnroe aujourd'hui,
l'époque Jordan, Magic Johnson, ça ne manque pas?
Non, parce qu'on est passé à autre chose. Mais il faut évoluer avec son temps.
Est-ce que j'aimais cette époque?
J'adorais cette époque, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas l'époque de maintenant.
Il vit avec son temps. C'est un garçon qui vit avec son temps. Il ne se retourne jamais sur son passé.
Fred, je t'avais écouté sur le débat, parce qu'il avait été là, sur le GOAT du basket. Je suis d'accord avec toi sur il ne faut pas comparer. Mais l'esprit qu'incarne le sportif quand il arrête... Tu te dis, est-ce que quelqu'un va venir le supplanter? Est-ce que quelqu'un va venir faire différemment?
Est-ce que je vais revivre les mêmes émotions avec quelqu'un d'autre?
C'est générationnel, ça. Chacun a ses goûts. Et toi, ça sera peut-être un Nadal, mais peut-être que pour d'autres, ça sera un autre. En fait, tu peux pas raisonner comme ça. Sinon, tout le monde te manquerait dans toute l'histoire du tennis, du basket, du rugby.
L'idée que je me fais du basket avec lui. Tennis, pardon.
Ben oui, parce que c'est générationnel, parce que des gens de ton époque ont cette idée, et je suis de cette époque aussi, hein, on a un an d'écart. Donc oui, évidemment, j'ai cette idée au départ, mais sauf que j'ai envie de voir ce qui se passe maintenant, j'ai envie de voir le futur.
Moi, dans ces cas-là, quand quelqu'un me manque, j'essaie de le faire venir dans les GG, c'était le cas avec Julien, je le voyais plus sur les cours, donc je lui ai dit, viens dans les grandes gueules du sport, et tu seras très bien accueilli.
Ouais, j'ai été très bien accueilli.
Et tu as été,
c'est beau quand même, c'est une belle déclaration.
Un coup de rap, mais
c'est vrai que j'ai tenté de Jordan, évidemment. Ça captait pas. Florent est avec nous au 32-16. Salut Florent.
Salut les gars, comment vous allez?
Très bien, et toi? Tout va bien? Est-ce que Nadal te manque?
Vous allez pas me faire chialer là avec Maury là. C'est compliqué, hein. Voilà quoi. Ah ouais, c'est compliqué, hein, franchement. Franchement, moi-même qui joue au tennis, j'ai du mal à regarder le tennis maintenant.
Ah ouais.
Sérieusement, c'est vrai. Et un petit aparté, Fred, le go du tennis, c'est Mike James, personnellement. Voilà.
Du basket.
Le go du basket, alors, c'est Mike James.
Ouais, voilà, peut-être qu'il joue au tennis aussi, mais il est plutôt meilleur au basket quand même.
Non, mais le go du basket, c'est Mike James.
Je comprends.
Par rapport à hier. Mais personnellement, moi, Nadal, il me manque. J'ai du mal à manger du tennis maintenant. Avant, quand il y avait un match. Peu importe l'adversaire, hein, même Djour me manque, hein, même Djour Wilfried, même Julien me manque, oui, sincèrement, oui aussi.
Vrai, mais t'es pas obligé de mentir non plus, à un moment.
Mais je veux vous dire que voilà, toutes ces générations-là me manquent, clairement. Parce que maintenant, avant, quand je regardais le tennis, ça me faisait plaisir de me lever à 3h du matin, à Flushing Meadow, regarder Nadal, jouer, etc. Maintenant, j'ai perdu ce goût-là. Regardez Alcaraz, regardez l'autre dopé là aussi, Sinner, ça me fatigue. Franchement, sérieusement, c'est vrai. Voilà, et je comprends pas. En fait, de base, il aurait même pas dû être à Roland Garros, ce monsieur-là déjà. Mais
il a été suspendu déjà. On en a beaucoup parlé dans cette émission.
Mais moi, pour moi, Rafa, c'est le meilleur joueur du tennis que j'ai vu. Sincèrement, je peux pas. Mais c'est pas une histoire de nostalgie. J'arrive plus à mettre une chaîne de tennis. Pour regarder le tennis, pour regarder.
Tu vas aller à Roland Garros ou pas cette année?
Malheureusement, j'ai pas eu de place, malgré que mon club n'en a pas eu.
Ok, mais t'aurais voulu voir qui là? Parce que quand quelqu'un te manque, il faut que tu combles ce manque. Est-ce qu'il y a quelqu'un là, un Alcaraz? Bon, Sinner, j'ai compris que c'était pas ton copain.
Le papy, quoi. Novak.
Ah, Novak. Arthur Fils, peut-être, là, qui arrive.
Je me suis pas encore penché sur son cas. Voilà, quoi. Donc c'est compliqué. Ou même Gaël, s'il le fait. Donc voilà, quoi. C'est tout. Moi, en fait, je suis encore la génération Gaël, Novak, Rafa. Pas Roger, parce que voilà, pour moi, Rafa est au-dessus, mais j'ai du mal en fait à aller maintenant me déplacer, aller voir des matchs.
Bon, il est tranché, notre ami Florent, vous entendez ce qu'il dit. Tiens, pour passer à autre chose là, Djoko, t'y crois?
À quoi?
D'aller loin dans ce tournoi.
J'ai pas vu son tableau au loin. C'est oui, quart demi, j'y crois.
Ok. Et il pourrait s'en contenter.
Je pense qu'il a Wimbledon dans la tête, moi. Mais c'est un avis personnel.
Tournoi de préparation pour lui, tu penses?
Bah, tournoi de préparation, mais 15 jours, 5-7 sur terre battue.
À son âge, bah, ouais, ça
son
peut
âge, avec les pépins physiques qu'il a eu depuis le début de saison, je pense que c'est un peu compliqué. Par contre, là, voilà, une semaine avant le tournoi, il est allé faire Genève, il est en finale, il refait des matchs, il prend du rythme. Forcément, ça va l'aider. Ça va l'aider.
Et on va suivre nos Français, notamment, je le disais, Arthur Fils. Hein, ce sera Nicolas Jarry pour son premier tour, un potentiel huitième de finale face à Yannick Sinner.
Ce qu'on avait dit la semaine dernière, ou il y a 15 jours, sur l'importance du tirage au sort par rapport au quel exploit pour les Français, un bon Roland-Garros et tout. Vu le tirage au sort, si on en a deux en deuxième semaine, ce sera un bon tournoi.
Ce sera déjà un bon tournoi. On en reparlera évidemment tout au long de la quinzaine avec nos envoyés spéciaux, Anthony Reich, Eric Salio, avec Sarah Pitkowski, avec Julien Beneteau, évidemment, sur RMC. Merci Florent d'avoir composé le 32-16. Les nostalgiques, vous avez gagné un petit pourcentage. Nous terminons la consultation à 48-52. Voilà, est-ce que Raphaël Nadal vous manque? On va se retrouver dans quelques instants. On va poursuivre la discussion tennis avec cette nouvelle que l'on ne voyait pas venir. Caroline Garcia, enfin, peut-être tu avais des infos, évidemment, tu la connais bien, mon cher Julien, qui arrête sa carrière. C'est son dernier Roland. Est-ce qu'elle va laisser une trace dans l'histoire du
elle
tennis français?
Elle n'a pas supporté que Julien abandonne l'équipe de France de Fed Cup.
Ah bah attends, moi si Julien abandonne les GG, j'arrête.
On s'en va
tous. À tous. Ah bah attends, ça me paraît évident. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h32, de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Cédric Quémant, Julien Beneteau. Fred Weiss, à partir de 11h évidemment, on attaquera cette finale de la Champions Cup. C'est cet après-midi entre l'UBB, l'Union, Bordeaux-Bègles et Northampton. L'UBB qui n'a jamais rien gagné depuis sa fusion il y a 20 ans, c'était en 2006. Le manque de titres, est-ce que c'est un problème à l'heure d'aborder cette finale? Et sachez que nous avons un oui qui sera dégainé par Cédric Emmons, notre ami rugbyman. Mais ça, ce sera à partir de 11h. Cher tennis, il est temps de te dire au revoir. C'est par ces mots que Caroline Garcia a annoncé sur les réseaux sociaux la fin de sa carrière dans les prochaines semaines. La Française de 31 ans va donc disputer son dernier Roland-Garros. Une annonce surprise, même si, vous le savez, Caroline Garcia n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis de nombreux mois. 130e mondiale aujourd'hui. Son meilleur classement, tout de même 4e joueuse mondiale. C'est fait d'armes. Une demi-finale à l'US Open, quart de finale à Roland, une fantastique victoire au Masters et évidemment la Fed Cup en 2019 avec son capitaine Julien Beneteau. L'annonce de sa retraite, c'est la punchline des GG, rapportée par notre copine Siri.
RMC, la punchline GG.
Après 15 ans à concourir au plus haut niveau et plus de 25 ans à consacrer presque chaque seconde de ma vie à ce sport, je me sens prête à tourner la page et à ouvrir un nouveau chapitre. Mon parcours n'a pas toujours été facile. Le tennis a toujours représenté bien plus que des victoires ou des défaites. C'était l'amour ou la haine, la joie ou la frustration. Et malgré tout, je suis profondément reconnaissante pour tout ce que le tennis m'a donné. Pour la femme forte, passionnée et déterminée qu'il m'a aidée à devenir. Mais aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. Mon corps et mes aspirations personnelles me le demandent.
Ah bah, donc la pêche, hein, Siri, hein. Donc, Siri déprimée après cette annonce de Caroline Garcia. À chaque fois, on demande évidemment à Siri de rejouer évidemment la scène. Merci Siri, tu nous as bien plombé l'ambiance. Caroline Garcia va-t-elle laisser une trace dans l'histoire du tennis français? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Petite trace.
Ok, donc c'est un petit oui. Un petit oui. Cédric Emmons.
Non.
C'est non. Julien Beneteau.
Oui.
Fred Weiss.
Non.
On commence avec toi, Julien. Pourquoi oui?
Bah, tu l'as rappelé, son palmarès, numéro 4 mondial, gagner le Masters, une victoire en Fed Cup, c'est pas rien. Dans l'histoire du tennis français, on parle du tennis français.
Bien sûr.
Hommes et femmes confondus, je me suis un petit peu amusé. Elle est dans le top 10. Historique et c'est pour moi la quatrième française derrière Amélie Mauresmo, Marie Pierce et Marion Bartoli. Dans l'histoire, quand on fait 15 ans de carrière et que on finit en étant dans le top 10 hommes et femmes confondus et dans les quatre premières françaises, ben oui, je considère qu'on qu'on laisse une trace dans l'histoire du tennis français.
Ok, les noms, figure, vous pouvez y aller.
On dit figure emblématique ou charismatique, du moins c'est les 1-2 du tennis français féminin ou masculin qui laisse une trace. Si on parle de Amélie Mauresmo, Marie Pierce, elle a une carrière de...
Ouais, si on s'arrête qu'un ou deux, ça veut dire que par exemple Henri Lecomte, il n'a pas laissé une trace
pour le tennis français. Non, mais il a du charisme. Les aléas de sa carrière, le haut, le bas, fait que elle est passée en dessous des radars, une fin de carrière qui s'en va, peut-être pas au super moment, mais,
C'est surtout que
et puis pas reconnu par le grand public, on n'est pas très limité sur le grand public.
Mais on a eu tellement, je veux dire, en 2022, quand elle marchait sur l'eau, on s'est dit ça y est, on la tient notre championne, parce que cette nana, elle avait tout, elle a un super tennis, un physique incroyable, elle est costaud comme tout. Et tu as une impression de gâchis. Moi, j'ai eu une impression de gâchis parce qu'elle était au sommet pendant quelques mois en 2022 et derrière, elle est retombée dans ses problèmes parce qu'elle a un physique incroyable, un tennis incroyable, mais elle n'a pas eu le mental de la championne. C'est pour ça que je dis qu'elle laissera une petite trace, parce que son palmarès est quand même là.
Et parce qu'elle souffre aussi de la comparaison, parce qu'on en a eu des championnes ces dernières années.
C'est ça qui est plus dur.
Oui, autant chez les garçons, on se réfère tout le temps à Yannick Noah, autant chez les filles, t'as eu Mauresmo qui a été numéro un mondial, t'as eu Marion Bartoli qui a gagné Wimbledon, t'as eu Marie Pierce qui a gagné Roland Garros. Et donc pour une fille, une tenniswoman française,
faut gagner un grand
pour chemin. Arriver à vraiment marquer les esprits, il faut gagner.
T'es obligé de te mettre au niveau des autres.
Non, mais c'est là que c'est dur. Le tennis, vraiment, c'est très très dur, parce qu'effectivement, quand tu gagnes un master, tu dis c'est extraordinaire. Sauf que qu'est-ce qui reste dans les têtes de la plupart des gens? C'est les grands chelems. C'est les victoires en grand chelem. Et sa meilleure perf, c'est une demi. Donc forcément, les gens, les communs des mortels, moi je comprends ce que tu dis, parce qu'effectivement, être à un moment quatrième mondial, c'est juste incroyable. Sauf que sur le grand public, effectivement, c'est le grand chelem qui parle. C'est les parcours.
Elle a eu un meilleur classement ATP, par exemple, que Marion.
Oui, c'est vrai.
Elle était quatrième et Marion, je crois, au mieux, a été septième.
Sauf qu'on est d'accord que le grand public...
évidemment beaucoup plus de Marion que...
Mais parce que pour le grand public, le classement, c'est... ponctuel, alors qu'une victoire, ça marque les esprits, ça marque le temps, et c'est quelque chose d'incroyable. Et une nouvelle fois, c'est dur, parce que dans ce sport, même quand tu performes, même quand t'es quatrième mondial, même quand tu gardes un master,
c'est parce que je disais tout à l'heure, ça a été une grande joueuse. Mais pour marquer l'esprit, tu as raison, Fred. Il faut gagner des grands chelems. Il faut s'inscrire dans la durée, mentalement, physiquement, des hauts, des bas. Il va lui manquer ce petit truc, cet espoir qu'on a cru voir et qui est malheureusement jamais arrivé.
Alors cette sensation de gâchis, toi qui la connais bien, Julien, est-ce que tu as la même sensation aussi, que quelque part, il y a eu des choses formidables et puis il y a du gâchis qui fait que ça, il reste à la porte, tu vois?
Je dirais pas du gâchis, il y a une ambivalence avec Caroline, parce qu'elle avait un style de jeu très agressif, très risqué, où de temps en temps on se disait... s'il y a un peu de nuance, et elle a les armes techniques, tennistiques et les armes physiques, ça peut donner quelque chose d'incroyable. Et en même temps, elle est arrivée avec ce format-là, enfin avec ce système de pensée, cette éducation, etc. Elle est arrivée quatrième mondiale, elle a gagné le Masters, donc c'est hyper compliqué. Est-ce que en jouant autrement, elle aurait été plus haut? C'est compliqué d'aller plus haut que ce qu'elle a fait. Donc, je dirais pas gâchis. Le seul truc,
pour revenir en 2022, elle avait un grand chelem dans les pattes, non? L'US Open, elle aurait
bien. En fait, c'est comment elle a pas réussi à capitaliser après la victoire en Masters en fin d'année en novembre 2022. Comment après le début d'année 2023, je pense qu'elle s'est mis beaucoup de pression, qu'elle n'arrive pas à relativiser. Quand elle disait, c'était soit la haine, soit l'amour, soit la frustration ou la... Et elle le disait, elle l'a très bien dit dans une des interviews qu'elle a fait il y a ces quelques mois. Elle avait l'impression que sa vie de femme était définie par ses résultats tennistiques. Et qu'aujourd'hui, elle aspire à autre chose. Elle aspire à avoir une autre vision, une autre connaissance. Elle va se marier cet été. Elle est vraiment dans un autre. Et c'est dommage qu'elle ait pas réussi. Moi, plein de fois, je lui ai dit, au cours de mon capitanat, elle ne s'octroyait pas du bon temps. Elle ne s'octroyait pas de pouvoir profiter de tout ce qu'elle a fait. Parce que tout simplement, elle n'a pas été éduquée comme ça. Et donc, c'est difficile au fur et à mesure. Je me souviens d'une anecdote. Au mois de février, on venait de faire l'Open d'Australie. Il y avait les fameux tournois au Moyen-Orient, à Abu Dhabi, Dubaï. Et elle me dit, je sais pas si j'ai envie d'y aller. On était au CNE à Paris et je suis passé la voir à l'entraînement. J'ai pas envie, au fond d'elle, elle avait pas envie d'y aller.
Et je lui ai dit, mais n'y va pas. Vas-y. Et elle se, limite, elle se sentait obligée d'y aller parce que le circuit faisait que c'était des Masters 1000, il fallait y aller, il fallait préparer la tournée américaine derrière, etc. Je dis, mais qu'est-ce que ça va changer à ta vie et à ta carrière si t'y vas ou si t'y vas pas? Vas-y, prends du temps. Va avec ton futur mari là-bas, mais n'y va pas. Pars en vacances, prends du bon temps, réentraîne-toi et tu seras prête pour Indian Wells. C'est pas grave. Et voilà. Et ce, comment dire, ce...
C'est quoi, ce côté jusqu'au boutiste qu'il a un peu perdu?
Ouais, enfin, perdu, non, mais...
L'impression que le tennis, pour elle, c'était une souffrance.
Après, c'est, à la fin, oui.
Après, c'est difficile, hein, quand tu fais les choses par obligation, parce que si tu te dis mentalement, j'y vais pas, on va penser ça, ou je vais manquer ça, et si j'y vais, mais à reculant, parce que j'y vais sans plaisir, elle a déclaré qu'elle avait perdu le plaisir du jeu, qu'elle était usée mentalement. Et c'est dur cet équilibre entre ce que je dois faire. Si j'y vais pas. Si j'y vais pas, il y a telle et telle conséquence. Mais si j'y vais, je suis pas convaincu d'y aller. D'être entre deux.
Mais c'est une torture psychologique. C'est une torture.
Il y en a plein d'amis sportifs qui sont dans ce modèle de pensée.
On boit la tête, hein, de
mais
façon,
de dire, parce qu'on veut être compétitif, mais de dire, si je fais ça, si je m'octroie ça, je vais pas être compétitif. Et c'est des modes de pensée qui enferment. C'est très dur. Un de ses derniers matchs, pas cette année, mais l'année dernière, il y a deux ans, elle était déjà un peu dans cette zone-là. Et c'est là où son fiancé, son futur mari, l'aide beaucoup. Elle était, avant un match en Grand Chelem, elle était pas bien. Elle jouait le soir. Et à 16h ou 17h, son compagnon lui dit, ils étaient dans la chambre d'hôtel, elle était vraiment pas bien apparemment, il lui dit, viens, on va se promener. On va se changer les idées, tu vas pas penser à ton match et on va aller manger une glace. Ça lui a fait du bien. Elle a gagné le soir, elle a fait un match exceptionnel, mais pas parce qu'elle a mangé la glace, parce que il y avait quelqu'un de son entourage qui lui a dit, écoute,
parce qu'elle a déconnecté aussi un petit peu. Ça fait du bien de déconnecter, de dormir tout le temps, de la tête dans le bidon, c'est impossible.
Je pense que si, de manger une glace, ou quand t'es dans ce mode de pensée, c'est-à-dire que tu t'alimentes, tu réfléchis, tu dors. T'es dans ce truc. Moi, j'avais ce même rapport avec la nourriture.
Ouais.
On me disait, t'as des 2-3 kilos en trop, donc je me serrais. Sauf que derrière, j'avais zéro plaisir.
Et zéro plaisir.
J'avais rien. Je me rappelle la préparation Coupe du Monde 2011. Je suis arrivé, je faisais partie, j'étais un ou deux, allez, peut-être, on était deux, trois quarts à faire à 6h30 du vélo, parce qu'il fallait qu'on soit fit, il fallait qu'on perde des kilos. Sauf que j'étais pas heureux. Je leur ai dit, mais moi, c'est pas mon modèle de pensée. Le plaisir de la table va m'amener de la joie, va m'amener de la libération. Et le fait de manger cette glace-là a fait qu'elle s'est dit, mais en fin de compte, il y a du plaisir ailleurs. Et j'arrive pour les bonnes raisons sur le cours. Je viens pour prendre du plaisir.
Dans tous les compartiments qui font la performance, tu prends la technique, la tactique, le physique, le mental et plein d'autres choses. Elle, si elle faisait pas les choses, mais quand je dis elle, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Si elle se dit, si elle fait pas les choses ou elle dit, tiens, je dois avoir 18 sur 20 dans tous les compartiments, elle pense
qu'elle n'est pas prête.
Exactement. Et donc, du mal à avoir confiance en elle, etc. Et encore, c'est pas que Caroline isolée. Il y en a beaucoup. Et donc, de temps en temps, ce que dit Cédric, c'est hyper important. À partir du moment où tu fais les choses primordiales, hyper bien.
Oui, mais il faut se connaître. Oui, sur le terrain, il faut très bien se connaître. Pour pouvoir se lâcher
mais
un
Julien,
peu, il faut se connaître.
Julien, toi qui la connais si bien, alors évidemment, t'as pas été son coach, mais t'as été son capitaine. Alors tu la voyais pas tout au long de l'année. Mais est-ce que ce genre de discussion, t'arrivais à lui imprimer ou non, en fait? Elle était mentalisée comme ça.
À imprimer, je sais pas. De temps en temps, moi, je voyais pas une souffrance, mais un mal-être de temps en temps et j'essayais justement de surtout sur la fin. Enfin, je veux dire quand t'es une petite fille de 8-10 ans et que tu vas sur les cours à Lyon, elle est lyonnaise d'origine et que on te dit que à 29-30 ans, quatrième mondial, t'as gagné la Fed Cup et t'as fait une demi grand chelem, tu signes quand t'as 8-9-10 ans sur le truc. Donc d'essayer de relativiser, de dire regarde, de savourer, de profiter.
Là, tu penses qu'elle est contente de sa carrière?
J'espère pour elle.
Mais c'est dur pour ces athlètes-là. Hein.
J'espère vraiment pour elle.
Parce qu'elle
le mérite. Et j'espère justement que elle va jouer quelques tournois, je sais pas combien cette année, mais j'espère qu'elle va pouvoir les jouer. Justement, là, il n'y a plus de système de...
Libéré.
Oui, exactement. Ouais, ouais. De points, de classement, il faut que je fasse ci, de calendrier pour l'année prochaine. Non, allez,
Il me reste 4-5 tournois, un dernier Roland-Garros. Vas-y, profite.
Ces athlètes, ils voient toujours le verre à moitié vide. Même à 18 ouais, partout. C'est bon. Dans le rugby, on parle de super pouvoir. On a des joueurs qui ont, par exemple, le jeu au sol, gratté, peu importe. C'est son super pouvoir. Capitalise là-dessus. Et même si t'as 12, 13 de moyenne à côté, mais essaye de construire ta carrière autour de de ce super pouvoir. On parle de points d'amélioration, tu vois. On parle plus de points de faiblesse. Mais dans d'autres sports, quand tu le rugby, c'est pareil. Pour avoir vécu, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, ça me torturait de dire faut que je pèse, faut que c'était devenu dingue. Si je le faisais pas, j'avais l'impression de trahir, et deux, de pas être prêt pour arriver à enchaîner les séquences d'entraînement, les matchs. Sauf qu'un jour, quelqu'un m'a débloqué. Il m'a dit ouais, mais t'as le droit aussi de prendre du plaisir, quoi. Le plaisir, c'est d'être là. Le plaisir, c'est ailleurs que la nourriture. C'est ailleurs que de te priver. Eh ben, ce verrou, il a sauté. Mais sinon, je pense que j'aurais pas fait la moitié de ma carrière parce que j'étais vraiment bloqué sur ça. Et je pense que quand on en arrive là, on n'est jamais satisfait. On prend pas de plaisir. On n'y va pas par contrainte, mais on y va en se disant attention, je peux échouer, je peux. Et la dimension mentale. Et Fred disait tout à l'heure, faut avoir un sacré recul pour pouvoir le faire, parce que tu t'enfermes totalement.
Dernière question, Julien, toi qui l'as vu encore il y a quelques semaines, j'imagine, pour lui annoncer que t'allais plus être le capitaine de cette équipe de France féminine. Est-ce que tu savais, est-ce que tu imaginais qu'elle arrête à 31 ans là?
Je pensais pas il y a quelques semaines. Je pensais fin de saison dernière et début d'année. Je pensais au fond de moi que 2025 serait sa dernière saison, parce qu'elle envoyait des signaux et qu'on sentait une certaine justement fatigue à tous les niveaux de devoir gérer et dealer avec ça. Et je trouve que c'est bien qu'elle l'ait annoncé là avant Roland-Garros pour que le grand public sache que c'est son dernier Roland-Garros en tout cas.
Et qu'elle soit donc fêtée à Roland-Garros par le
public. Ouais, bien sûr. Ouais.
Ok, bon, c'était très intéressant de parler de Caroline Garcia. Évidemment, on lui souhaite beaucoup de belles choses pour son après-carrière, mais là, ça joue encore. Et donc, pour ce Roland-Garros, ce sera face à l'américaine Bernarda Pera pour son premier tour. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour savoir qui a gagné la contre-attaque. Attention, qui s'est imposé? Est-ce que c'est Julien? Est-ce que c'est Cédric? Je crois que ça va jouer entre les deux là. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h50 de retour dans les grandes gueules du sport avec Julien Beneteau, Fred Veil, Cédric Emmons, Christophe Cessieux. On ouvre le dossier UBB Northampton, la finale de la Champions Cup dans quelques minutes à partir de 11h. Mais tout de suite les GG, c'est à vous de jouer.
RMC. Les GG contre-attaque.
Personne ne sera étonné. Il ne sera pas étonné. Dernière place pour Fred Weiss avec sa NBA. 15%. Bravo Fred.
Je suis très étonné.
Ouais, super. Le phénomène Pollock, justement. UBB Northampton, 20%.
Vous savez
quand même
pas ce que vous perdez. J'avais fait un papier et je vous parlais de ce mec-là. Je vous faisais découvrir des choses. Tant pis. Vous voulez pas être curieux? Vous préférez.
Tu sais quoi, on va le mettre
anciens.
En podcast.
Non, rien
on va
du tout.
Le faire. On va le faire en podcast. Si, ça va être super.
Regarde, je déchire ma feuille.
Oh non. Oh là là. Quel outrage.
On peut te laisser, sinon. Si tu veux.
Gasquet, mes hommages, 29%, on n'aura pas d'hommage, malheureusement, Julien.
Tant pis pour vous.
Voilà. Et non, c'est la carrière et après, ce débat philosophique de Cédric Emmons, 36% pour toi. Cédric, on t'écoute.
Oui, je voulais remettre sur la table ces joueurs qui, en fin de carrière, sont blessés, sont en dépression. C'est un enjeu ignoré quand on écoute Éric Dimeco qui dit « Je suis à la limite du handicap moteur, Bruno Rodriguez, handicapé et amputé surtout pour avoir subi des infiltrations. Juan Martín del Potro qui dit qu'il est incapable de courir. » Il faut aborder le sujet parce que tous ces sportifs, quand la lumière s'éteint, il y a quoi derrière ? Ça peut être dramatique parce que ces joueurs sont dans la douleur, ils sont dans l'oubli. Alors il y a une réalité alarmante, c'est les calendriers. Certainement les calendriers, quand on voit au football des joueurs qui sont capables de faire plus de 80 matchs, là on encore l'exemple du football, on rajoute des compétitions comme la Coupe du monde des clubs, les corps sont usés, sont abîmés, et pourtant il me semble qu'il y a des solutions avec de la préparation sur la reconversion, l'accompagnement psychologique régulier, le suivi médical post-carrière et puis les langues qu'il faut briser, c'est à bout des joueurs qui vont arrêter. Je pense que c'est un vrai sujet. Alors à qui le responsable? Au club qui pousse trop les joueurs, le manque d'accompagnement, aux fédés qui mettent de plus en plus de matchs, ce sport business qui fait qu'on doit jouer, si je prends l'exemple du basket, pratiquement tous les deux jours. Mais c'est pas de la chair humaine. Il y a des hommes, il y a des familles, et derrière il y a eu des films, hein, derrière, dû à des contacts, à des choses qui se passent. Derrière il y a des vies brisées. Donc je pense qu'il est temps vraiment de regarder ce problème-là.
Et tu es un exemple de reconversion pour le coup, parce que tu réussis magnifiquement ta reconversion. Tu peux le dire d'ailleurs ce que tu fais.
Oui, je suis responsable du sponsoring événementiel pour Andros. Mais je repousse une opération de la hanche due au sport depuis X temps. Et je vais certainement me faire opérer au mois d'octobre parce que ça devient invivable. Mon ami Vincent Clerc s'est fait opérer. Du moins, moi, je suis pas encore sous anti-inflammatoire, mais je passe de sale nuit. J'ai 2 heures de route. Je suis obligé de m'arrêter pour marcher. J'ai des douleurs qui remontent jusqu'au cervical. Et encore, j'étais en 3/4. Donc, imaginez les avant. Hein. Donc, je crois que le sport de haut niveau, les athlètes de haut niveau, c'est oui, très bien, mais à quel prix ? Vous dire que j'ai jamais joué sous infiltration, c'est vous mentir. Surtout des finales, on dit c'est toujours le match, c'est la finale, je dois la jouer, j'ai les croisés pétés, je dois la jouer. Ouais, mais derrière il y a quoi ? Parce que derrière ce croisé, il y a un cartilage qui va s'abîmer.
Ah ben c'est ce que raconte Eric, hein, d'ailleurs. Il joue la finale de la Ligue des Champions avec
les jeunes aujourd'hui. C'est pas pour ceux qui l'ont vécu parce qu'il est peut-être trop tard. Mais c'est pour les jeunes. Ne faites pas le match qui va vous abîmer. Pensez à votre vie. J'ai tellement d'exemples de joueurs plus vieux que moi qui peuvent pas jouer avec leurs petits enfants parce qu'ils ont le dos brisé, parce que ils peuvent pas courir, ils peuvent pas participer. Il y a une autre vie derrière ce sport-là. Pas tout sacrifier au nom d'une finale.
Justement, Cédric. Tu as travaillé pendant un moment avec Chabal.
Oui.
On a appris dernièrement, il a raconté qu'il était en train de perdre un peu la tête et ses souvenirs. Est-ce que toi, tu l'as senti ça ? Sébastien, tu l'as vu
Non, le sentir non, mais c'est vrai qu'il nous parlait pas des matchs qu'il a pu vivre. Je pense qu'il a des flashs. Je veux pas parler à sa place, mais il doit avoir des flashs. Est-ce que c'est, alors là, je vais peut-être aller loin, mais est-ce que c'est, il doit consulter, voilà. Il doit consulter pour voir s'il n'y a pas autre chose caché derrière ça. J'ai pas de souvenir de tous les matchs, hein.
Tous les souvenirs, donc, c'est impossible.
Moi, je n'ai pas de souvenirs de toutes les émissions que j'ai fait avec Drouet.
Et pourtant, ça a marqué quand même.
C'est pareil. Est-ce que le cerveau se met en veille de temps en temps pour nous protéger? Oui, pour, voilà.
Mais pour revenir à ton débat, est-ce que vous avez la sensation, les sportifs, d'avoir été à un moment donné de la chair à canon?
Alors, justement, moi, au tennis, non. Et le rôle des médecins est hyper important. Parce que je vais vous donner un exemple. Nous, on avait un médecin à la fédération qui préservait toujours la santé des jeunes et des athlètes qui sont déjà en activité professionnelle. Et c'est le docteur Bernard Montalvan. Et parfois, il était même pas critiqué parce que il mettait beaucoup de temps de récup alors qu'on a l'impression qu'il prenait 2 ou 3 semaines de plus de convalescence. Et une année en Coupe Davis, les perfusions étaient autorisées. Et il y a un joueur de l'équipe, le médecin de l'équipe étrangère, vient voir le médecin de notre équipe en disant « Est-ce que tu as le matériel pour perfuser mon joueur ?» Il lui dit « Oui, je le fais pas. Je te donne le matériel. » Oui, ils avaient joué 5-7. C'est à l'époque, c'est la Coupe Davis, c'était en 5-7. Et là, dans le clan France, celui contre qui avait joué ce joueur-là, le capitaine va voir le doc, il dit « Attends, les autres le font, il faut qu'on perfuse notre joueur, nous, pour qu'il récupère. » Ce joueur français avait 19 ans à l'époque. Et Bernard Montalvan, le docteur, il dit « Bah non, je l'ai ausculté, il n'a aucun signe de déshydratation, il a joué 5-7, etc. Mais il va bien récupérer, demain il est au repos, il peut rejouer dimanche. Si je le perfuse à 19 ans, alors qu'il n'en a pas besoin, qu'est-ce que je fais à 25, 26, 27, 28 ans avec lui ?» Et après, c'est les santé personnelle, publique et les problèmes de dopage.
Les disciplines n'ont pas eu
le rôle des médecins est hyper important aussi.
C'était extrêmement intéressant. Je pense qu'on va en consacrer un débat parce que vraiment, vous avez et anecdotes et aussi profondeur et aussi expérience personnelle pour en parler. Donc, promis, dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va en parler, les amis, parce que c'est extrêmement intéressant. Mais on est un peu pris par le temps, malheureusement. Il est 10h57. On va se retrouver pour parler de l'UBB. Et promis, on reparlera de ce sujet parce que je sentais que Fred Weiss avait envie de dire des choses. Pardonnez-moi. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.